9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de l'été, un club dans lequel on aime parler de culture et de gastronomie et un club dans lequel on aime partager nos coups de cœur pour des expos, pour des séries et pour des coins de France. Pas besoin de carte de membre, le club est ouvert à tous ceux qui ont simplement une bonne dose de curiosité. Nous avons 2 heures pour partir à la découverte de notre patrimoine culturel et gastronomique grâce à 2 amoureuses du beau et du bon. Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Mounz, expert gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis. Bonjour.
Comment ça va aujourd'hui?
Mieux que jamais.
C'est vrai?
Mieux que jamais.
Quel beau cœur.
Dopée à la bonne humeur.
Exactement.
C'est la meilleure des drogues. Sophie Massieu, un de nos invités est originaire de Guadeloupe. C'est donc là-bas que vous nous emmenez.
Mais absolument, on va aller dans un endroit très particulier. Alors j'avoue que je suis à la fois très heureuse d'aller là-bas et que j'ai aussi beaucoup de scrupules parce qu'on va réveiller notre invité à 4h du matin.
Exactement.
Avec le décalage horaire.
Il sera en direct.
On va aller au Mémorial Acte.
C'est magnifique.
J'en dis pas plus.
C'est à Pointe-à-Pitre et il faut vraiment voir ce monument. On en parlera tout à l'heure. Sophie Mounz, grâce à vous, on s'envole pour La Réunion.
Oui,
soyons fous.
Me reste dans le dôme, Tom.
Oui,
et on va partir à la découverte d'un sucre exceptionnel.
Oulala.
Une histoire de famille passionnante, vous allez l'entendre.
Et alors Sophie Mounz, toute cette semaine vous mettez la tomate
évidemment
à l'honneur, on ne l'oublie pas.
Oui,
quelle recette aujourd'hui?
On va faire une tatin de tomate.
Magnifique.
Ouh,
oh là là,
ça vous plaît?
Quel bonheur. Nous aurons 2 heures en tout cas pour parler de culture et de gastronomie. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été, n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Nos invités sont musiciens, chanteurs, ils ont inventé un genre musical, ils sont le premier groupe français à remplir le Stade de France, un groupe qui fête ses 40 ans de carrière, Portrait Sonore.
À New York, les gens parlaient de zouk. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je croyais qu'il parlait d'un suit, d'un costume.
Quand le mouvement zouk est arrivé, c'était l'invasion des années 80. Dans toutes les soirées dans lesquelles on se pointait, si le DJ n'avait pas de cassave, le DJ n'avait pas de soirée.
C'est une idée complètement mégalo de Pierre-Édouard Décimus, hein, pas moi. Hein. Il voulait faire un groupe qui fasse de la musique antillaise, qui soit écouté par les Antillais et, si possible, que ce soit écouté par le reste du monde.
Bonjour Jocelyne Béroard et Jacob Desvarieux, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous faites partie du groupe Kassav.
Si ça met pas de bonne humeur, franchement, qu'est-ce qu'il faut, hein.
Le groupe Kassav qui fête cette année ses 40 ans de carrière. Alors pour l'occasion, vous êtes en tournée un peu partout en France, en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Vous avez également sorti à l'occasion de cet anniversaire un double album de 35 titres. Nous allons évidemment en parler tout au long de cette matinée. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sons vous avez entendus dans ce court portrait sonore?
Waouh!
Il y avait pas mal de choses.
Ouais, il y avait l'extrait du documentaire qui a été fait.
Sur France 3?
Ouais. Dans lequel il y avait. Alors j'ai cru entendre la voix de. Ouais, Clive Jean.
Oui. Ouais.
La voix de.
De Nile Rodgers, qui parle
Nile
de
Rodgers,
vous aussi.
Ouais. Ouais. Qui encore, je sais plus.
J'ai eu l'impression que un des musiciens, un copain, Jean-Claude, la musicienne.
Ah, rapprochez-vous du micro, Jocelyne, on ne vous entendait pas.
C'est de retrouver son nom, évidemment. Bon, voilà.
Il y a eu plein de choses. Ouais, ce documentaire diffusé sur France 3 qui revient sur votre histoire. Donc, on entendait Nile Rodgers et Wyclef Jean parler de vous. Il y a aussi Marcus Miller qui vous a découvert grâce à Miles Davis, hein, rien que ça. On entend aussi Manu Katché, Peter Gabriel, voilà, Youssou N'Dour et Alpha Blondy parler de votre carrière. Alors, Jocelyne Béroir, je vous ai vu lever les yeux au ciel parce que j'ai trouvé ce concerto pour La Fleur et l'Oiseau. Vous passiez un concours de la chanson d'Outre-mer en 1982.
Oui, et j'avais même gagné.
Oui. C'était un nom avant de rejoindre
Kassav, tout à fait.
Et on a écouté évidemment Zouk, la c'est ça le médicament Nouni. Et il y a eu Scie et Bois, parce que je voulais que vous nous racontiez l'histoire de ce clip incroyable où il y a une foule énorme. Il a été tourné à Kinshasa, ce clip.
En fait, on devait tourner le clip au départ à Bissau.
Oui.
Et puis, ça ne s'est pas fait. Alors, après ça, il y avait une équipe de télé qui nous suivait pour faire un reportage, quoi. Ils nous ont suivis dans plusieurs pays. Puis, finalement, on a dit, bon, mais attends, on n'a pas pu faire le clip à Bissau, on va le faire là. Et ils disent, mais comment on fait? J'ai dit, tu mets le pied de la caméra dans un quartier de Kinshasa qui s'appelle Matongé, je crois. Et j'ai dit, tu mets le pied de la caméra. On reste pas loin, quand même. Et on attend. Et puis tu vas voir, les gens, ils vont voir un pied de caméra, ils vont se dire, il va y avoir un tournage.
Il va se passer quelque chose.
Il va se passer quelque chose. Et les gens sont arrivés. Et quand il y a eu plein de monde, il a mis la caméra sur le pied. Puis...
Il a juste mis rec et vous avez fait ce clip.
Voilà.
D'accord, c'est assez incroyable.
C'est artisanal.
C'est très artisanal. On a entendu aussi, vous a entendu, Jacob, dans un extrait de France 24, où vous expliquiez en fait la naissance du groupe, où c'était une idée, alors je vous cite, une idée mégalo de Pierre-Edouard Décimus.
À l'époque, on n'utilisait pas ce genre de mots, mais. C'est vrai que 40 ans après, quand j'y repense, je me dis, mais c'était un peu mégalo quand même. Une île où il y a 400 000 habitants, on dit, bon, alors voilà, on va prendre la musique du coin et puis on va faire en sorte qu'elle inonde le monde entier, quoi. Ouais. Tu dis ça aujourd'hui, on te dit, mais ça va pas, non?
Oui, 40 ans après, vous êtes là, donc bon.
Non, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire certainement plus facilement, parce qu'avec Internet, en fait, dès qu'on a posté quelque chose, on ne sait pas jusqu'où ça va.
Exactement.
Ouais. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était quand même un peu plus compliqué. Mais bon, on avait le droit. Je pense qu'il faut rêver. Il faut rêver.
Évidemment.
Ah oui, là, on a rêvé. Ouais.
Parce que ça ne vous a pas empêché, justement, d'aller jusqu'en Afrique, de toucher tous les pays africains, et à chaque fois que vous allez là-bas, d'être reçu comme
à l'Afrique seulement. On a joué à l'URSS, au Japon, à Tahiti, Nouvelle-Calédonie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, etc.
À une époque où il n'y avait pas Internet, alors.
Pardon ?
Où n'êtes-vous pas allé ?
En Chine, en Australie.
Et ben voilà. Bon, pour les années à venir, voilà ce qu'il me reste à faire.
Il y a encore des pays à parcourir, alors c'est ça la bonne nouvelle. Et on a aussi entendu, en fin de ce portrait sonore, le titre En bas chaîne là. Je voulais le passer parce que, pour expliquer aussi que le zouk n'est pas qu'une musique légère et que ça parle aussi des Antillais, de leur histoire.
Ouais.
Et en l'occurrence, En bas chaîne là, parce que les cales où étaient les esclaves.
Exactement.
Voilà, donc c'est important aussi de dire que ce n'est pas juste une musique festive, comme on pourrait l'imaginer quand on est novice. Voilà, c'était important de le préciser. Avant de poursuivre toute cette discussion, Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux, je vous propose d'écouter un titre de M qui s'appelle Grand Petit Con sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1. 9h-11h. Lise Pressac.
Il est 9h21, nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du club de l'été avec nos invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Cassav. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jocelyne et Jacob, vous fêtez vos 40 ans de carrière avec le groupe Cassav. Est-ce que vous pouvez nous raconter la jeunesse du groupe? Alors, on en a parlé déjà un tout petit peu avec vous, Jacob Desvarieux. Au début, c'est l'idée de Pierre-Edouard Décimus.
Ouais.
C'était vraiment son idée. Vous êtes là aussi depuis le début, Jacob.
En fait... Moi, je suis arrivé une fois qu'il a eu l'idée, qu'il a fait toute la conception, qu'il a tout prévu.
C'est le meilleur moment pour arriver ça.
Il a tout prévu pour les 40 prochaines années au moins. À ce moment-là, il cherchait un arrangeur. À l'époque, on n'était pas encore producteur ou tout ça. Bon. Il cherchait un arrangeur et puis maintenant, qui comprenne la musique antillaise, mais en même temps, qui travaillait dans d'autres musiques. Puis il est tombé sur moi, je ne sais pas, à force de demander à des gens. Et c'est là que je suis arrivé dans l'histoire.
Parce que vous avez travaillé avec qui avant, justement?
J'ai fait, alors, je sais me rappeler, les Charlots, par exemple.
Ah, c'est pas le même genre.
Ouais. Non, mais je dis ça justement parce que c'est très éloigné.
Exactement,
J'ai fait Bernie Lyon, j'ai fait un peu plusieurs musiques, quoi, du reggae, du rock, du plein de trucs pour plein de gens, quoi. Disco, etc.
Mais l'idée de ce zouk, c'est de créer une musique qui soit propre aux Antilles françaises, parce que chaque île, en fait, des Caraïbes a sa propre musique, le merengue, le calypso, c'est ça l'idée, en fait.
Ben oui, c'est-à-dire que. De prendre ce qui existait déjà, donc on va dire la musique traditionnelle, bien que, ce sont des pays neufs, ça fait 200-300 ans, quoi. Et de prendre ce qui existait et d'en faire quelque chose de plus moderne, de plus accessible, alors déjà aux Antillais, évidemment, et puis dans un deuxième temps, accessible au reste du monde, aux gens qui ne parlent pas créole, qui ne connaissent pas notre musique, qui ne savent pas d'où on vient, et qui puissent reconnaître tout de suite, en entendant la musique en question, de pouvoir dire, ah tiens, ça vient de tel coin.
Ouais.
Parce que quand vous entendez du merengue, vous savez que ça vient de Saint-Domingue. Quand vous
puis ça raconte, l'histoire de ces antillais français.
Alors, et jusque-là, on n'a pas inventé la musique antillaise. Ça existait. Il existait des gens qui faisaient des trucs. Il y avait Salvador, il y en avait plein d'autres. Mais,
Vous lui avez donné une ampleur nationale qu'elle n'avait pas.
Sophie Massieu.
C'est-à-dire que...
Jocelyne Béroir.
Déjà au départ, je crois qu'il était nécessaire de créer une musique parce qu'on avait... effectivement, toutes les musiques traditionnelles, le gros cas en Guadeloupe, Belay, en Martinique. En fait, c'est-à-dire les musiques un peu roots, quoi.
Des percussions.
Avec base, ouais, de percussions. Il y a eu des musiques qui étaient un peu plus sophistiquées, qui empruntaient, en fait, qui étaient des mélanges avec les musiques qu'on recevait, justement, d'un peu partout, mais surtout d'Europe, parce qu'on était éduqués, en fait, par l'Europe, n'est-ce pas ? Et donc, ça avait donné la biguine, la mazurka et des choses comme ça. Mais ça n'avait plus droit de cité. En fait, on était envahi par toutes sortes de musiques caribéennes et venant d'ailleurs, même d'Afrique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait quand même une radio, c'était ORTF, qui commençait à 6h du matin ou 7h avec à la Marseillaise,
oui.
Et qui ne nous donnait que 2 heures de musique antillaise par jour. Donc, on était bombardés de Stoney Chardin, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et compagnie. Comment ils appelaient ça encore, Tête de Bois et je ne sais plus quoi.
Ashton.
Voilà, tous ces trucs-là. Donc, on connaissait toutes les paroles par cœur de Sardou, de machin. Et en fait, notre musique était déconsidérée par nous-mêmes, même, puisque ça ne passait pas en radio. Donc, c'était le truc du week-end pour aller danser, etc. Et donc, plein d'autres musiques de d'autres pays, justement, qui s'affirmaient beaucoup plus, je veux dire, envahissaient le terrain. Et il était nécessaire qu'on ait une musique qui nous représente justement dans ces pays-là et ailleurs.
Il y a eu notamment Tabou Combo, des groupes haïtiens qui a fêté ses 50 ans de carrière et qui aussi a beaucoup influencé toute cette musique aussi des Antilles.
Ben oui, de toute façon, c'était l'époque, il y avait la musique haïtienne, la musique jamaïcaine, la salsa, enfin, il y avait toutes ces musiques-là. Et puis nous, on se disait, mais attends, ben nous.
Donc il fallait créer un style qui puisse être au niveau des autres. Et pire, au niveau international. C'est-à-dire que les gens qui écoutent cette musique-là, qui disent pas c'est inaudible, quoi, c'est mal réalisé, il fallait que ce soit bien réalisé, que quelqu'un dise je n'aime pas, mais qu'il dise pas c'est pas bien fait. Voilà, donc il y avait une rigueur à avoir, il y a toutes sortes de trucs, et ça c'était dans sa tête que ça a germé, et il nous a appelés au fur et à mesure, donc Jacob d'abord, ensuite son frère Georges Décimus, etc., 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 Jean-Claude Nemraud, Patrick Saint-Éloi, Jean-Philippe Martelly.
Oui,
au hasard
comme ça, vaguement. Et d'ailleurs, il a lancé le projet, puis après, il est parti, et vous avez continué aussi, quoi.
Ben oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dès qu'on a commencé à faire des concerts, c'est devenu compliqué parce que on avait tout à découvrir, quoi. C'est-à-dire qu'on a découvert que, par exemple, pour faire un concert, c'est pas simplement monter sur scène et jouer. Il fallait quand même que des gens préparent le truc avant, qui prévoient ne serait-ce que où est-ce qu'on va dormir après le concert.
C'est important aussi, comme détail.
Ne serait-ce que où est-ce qu'on va manger, par exemple, parce que le concert se termine tard, il n'y a plus de restaurant. Enfin, des détails de comme, genre de régie et autres. Et donc, du coup, il s'est retrouvé régisseur, manager, tout ça en même temps, au lieu de jouer sur scène. Et puis, au bout d'un moment, il est passé à autre chose, quoi. Il a organisé des festivals, enfin, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein. Il fait d'autres choses, quoi. Toujours dans la musique, mais être sur scène, bon, voilà, il a un peu lâché ça, quoi.
Ouais. En tout cas, dans parler de ce documentaire sur France 3, qui était vraiment très bien, Miles Davis disait justement de votre musique que c'est de la rumba, de la samba, des beats africains, du rock contemporain. Et Wyclef Jean vous compare à Earth, Wind & Fire. Et c'est vrai, quand il dit ça, ça a une certaine résonance.
Ben,
et
oui.
Puis, quelle référence, c'est plutôt... Ouais. Ça va.
Ouais, moi, je vois ça un peu... Quand j'ai commencé à jouer de la musique, moi, je jouais du blues. Évidemment, j'ai connu... le blues, je ne jouais pas de la musique classique jusqu'à maintenant. Mais disons que le blues et la musique classique avaient un truc en commun, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient pour des génies, en tout cas au moment où j'ai entendu parler d'eux, et qui sont morts dans l'anonymat le plus total, dans les fosses communes. Et puis, 200 ans après, on dit « Ah, mais c'était un génie hein. !»
Ouais, bien sûr. Oui, c'est bon. Un peu trop tard.
Oui, alors du coup... Je me disais quand même, ouais, c'est dur, quoi. Mais je préfère quand même de mon vivant entendre, ouais, c'est pas mal ce que tu fais, plutôt que 200 ans après, on dise, ouais, c'est un génie.
Oui, voilà. Méconnu, alors, voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on a eu cette chance. Ça a l'air de rien, parce qu'aujourd'hui, on parle plus des musiciens maudits, mais à une époque, ben, tout ce qui sortait, quand le rock a commencé à faire vraiment une explosion, tous les Rolling Stones, tout le monde disait, ouais, alors, il y a eu tel artiste qui m'a beaucoup inspiré. Le mec, il est où? Bah, écoute, il est mort dans l'anonymat.
Voilà.
On parlait beaucoup de ça.
C'est vrai.
Aujourd'hui, ben, nous, on est la génération qui est arrivée après. On entend, ouais, vous avez joué, vous avez fait presque le tour du monde, vous avez joué à tel endroit, vous avez rempli le stade, machin, etc. Et on est encore vivant, quoi.
Oui, et vous continuez de jouer. Et justement, cette longévité, est-ce que c'est aussi dû, vous pensez, au fait que vous avez chacun aussi poursuivi des carrières solo, au fait aussi que le groupe Kassav mettait en avant chacun d'entre vous, et c'était pas seulement une entité, c'était aussi des personnalités à l'intérieur de ce groupe?
Il y a plusieurs niveaux. En fait, le fait de pouvoir avoir une carrière solo permettait à Kassav d'installer le style. Parce qu'on faisait un album Kassav par an, mais il y avait possibilité d'avoir des albums solo des membres de Kassav, parce qu'on était plusieurs à composer. Donc déjà, comme il y avait une effervescence totale, ça permettait à chacun déjà de présenter son style, différents styles, différentes déclinaisons, je dirais, du zouk, et puis installer également le match. Parce que chez nous, il ne faut pas oublier qu'on est quand même 400 000 habitants par île, en Martinique et en Guadeloupe. Quand vous avez sorti un album, au bout de 3 mois, tout le monde est au courant que cet album est sorti.
Tout le monde l'a acheté. 9 fois circulé.
Ou presque, voilà. Donc, il était nécessaire d'occuper le terrain. Donc, c'était une façon d'occuper le terrain, et en même temps, ça servait à calmer une petite frustration, parce que quand on fait un album d'un groupe où il y a quand même 4 chanteurs, Jean-Philippe, Jacob, Jocelyne, Patrick et Jean-Claude, ensuite il y a eu Jean-Claude aussi, donc 5 chanteurs, je veux dire, sur un album où il y avait à l'époque, c'était 7 à 8 titres, vous n'aviez qu'un titre, maximum 2 dans l'album. Donc ça pouvait être un peu frustrant. Alors, les albums solo permettaient justement de calmer un peu cette frustration-là.
Ouais.
Maintenant, je crois que la longévité, je crois que c'est comme les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain, ça a mis du temps à s'installer, etc. Quand c'est arrivé et que le style a commencé à prendre et que d'autres chanteurs, d'autres artistes ont commencé à épouser ce style zouk, je veux dire, bon, il fallait qu'on tienne le haut du pavé, puisqu'on était quand même la locomotive. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça nous obligeait à une excellence, ça nous obligeait à toujours rénover, à toujours créer, etc. Donc, ça nous donnait de l'entrain. Voilà, oui. Je crois que c'est ça.
Ça donnait une forme d'émulation. Vous étiez obligé de continuer.
Complètement. Voilà.
Donc, on va continuer de parler de tout ça, de votre album aussi que vous avez sorti de ces 40 ans de carrière. Et vous allez aussi partager avec nous vos coups de cœur culturels. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend
avec le club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec nos invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Kassav. Jocelyne, vous nous avez dit que vos coups de cœur allaient du théâtre à la peinture en passant par la musique, mais que vous aviez plein d'idées dans tous les sens. Est-ce que vous savez de quoi vous aviez envie de nous parler ce matin? Est-ce que vous avez rassemblé vos esprits?
Je vais résumer, parce qu'en fait, j'ai vécu à cause de Kassav. J'étais partie au départ faire des études sérieuses de pharmacie, et donc ça devait durer 5-6 ans. Et puis la musique a volé ma vie et je me suis retrouvée presque un peu plus de, je crois, 28 ans après encore à traîner à Paris, quoi. Donc j'ai craqué un jour, j'ai dit je rentre chez moi et j'étais très heureuse de rentrer parce que comme j'aime beaucoup le théâtre, j'en ai fait un petit peu au lycée, des trucs comme ça. Bon, j'ai eu l'occasion d'être sollicitée pour des films. Donc je suis toujours intéressée par ce qui se passe par là et je trouve que chez nous, au fur et à mesure, les gens réellement s'affirment au niveau culturellement, quoi. Je veux dire, c'était avant, bon, on connaissait tous les classiques de Molière et compagnie, on continue à les étudier d'ailleurs, mais il y a également beaucoup d'auteurs et beaucoup d'écrivains chez nous et qui font que bon, il y a un style qui émerge, qui est vraiment, qui parle de nous, on se reconnaît dans ce qui est fait. C'est un peu à la façon du zouk. Je crois que si les gens ont aimé cette musique-là, c'est parce qu'ils se reconnaissaient dans l'expression qu'on donnait, alors que l'éducation qu'on recevait tentait désespérément de faire de nous de bons petits Français comme à Paris, quoi. Oui. Voilà. Et je crois que bon, quand on vit à 8000 km et qu'on a une histoire complètement différente, c'est tout à fait normal qu'à un moment, on refuse en fait d'être complètement assimilé et qu'on essaye de dire au reste du monde, voilà qui nous sommes. Et je veux dire, c'est pas un truc ni violent, ni agressif, c'est un truc de survie. Je crois que c'est ça. Et je le trouve partout, dans les pièces de théâtre que je vais voir chez moi, dans la peinture.
Et vous peignez aussi, Jocelyne, parce que vous ne l'avez pas dit, mais oui. Vous êtes passée par les Beaux-Arts aussi.
Je suis passée par les Beaux-Arts également, où j'ai fait plein de choses.
Oui. Vous peignez toujours?
Non, je ne peins plus. J'ai changé pour l'appareil photo, en fait. J'ai commencé la photo aussi quand j'étais au lycée. Et donc, je continue encore à faire de la photo, et puis de l'editing après, etc.
Sur ordinateur, du coup?
Sur ordinateur, voilà. Je me remets un peu à la peinture sur ordinateur, mais je suis un peu. J'ai une vie trop remplie, donc.
Bah oui, je ne sais pas où vous trouvez le temps.
Voilà.
Et Jacob Desvarieux, vous vouliez nous évoquer le festival Jazz à Vienne.
Ah, bah oui.
Pourquoi ce festival?
Ben, parce
qu'on aime beaucoup aussi ici.
Ben, on y a joué.
Oui. Déjà, c'est un gage de qualité.
En plus, c'était complet et tout.
Ouais,
c'est génial.
Bobby McFerrin, c'était qui passait. Bobby McFerrin y était, là.
Oui.
Ouais.
Il y avait. Alors, il y avait Tony Chasseur, qui est un bon fan aussi. et puis, il y a surtout un truc qui m'a frappé, c'est que c'est le seul festival en France, parce qu'on fait le compte quand même depuis quelques années, c'est le seul festival où on pouvait trouver un artiste d'outre-mer. Voilà. Ça a l'air bête comme
étonnant,
ça.
Étonnant, hein. Oui.
C'est, pourtant, les artistes d'outre-mer, il y en a plein. Il y en a même qui remplissent Bercy, le Zénith, etc. Mais alors, il n'y en a pas un qui passe dans un festival. Et on se posait la question, d'ailleurs, à un moment donné, on voulait même demander au directeur de festival, mais bah, finalement, ils ont le droit de mettre qui ils veulent. Hein, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé un seul?
C'est quoi votre explication à vous, Sophie Mathieu? C'est encore méconnu, vous pensez? Vos talents sont encore méconnus, mal acceptés?
Non, je ne pense pas, parce que quand je regarde les artistes français de haut niveau, hein, il n'y a pas un où il n'y a pas un artiste antillais. Il y a un musicien antillais, par exemple, un pianiste, un batteur, un bassiste, n'importe quoi. C'est pas pour dire que c'est confidentiel. C'est vrai que si on regarde le nombre de gens, il y a 400 000 habitants par île, il y en a deux. Enfin, même si on rajoute la Guyane, ça fait pas 1 million de personnes. On peut se dire, bon, 1 million de personnes, c'est quoi? C'est une ville en France, quoi.
Oui.
C'est même pas une région, quoi. Mais là, vous regardez dans les festivals, bah non.
Et surtout qu'ils rempliraient la scène à coup sûr. Donc c'est ça qui est un peu incompréhensible.
Non, mais s'ils arrivent à remplir Bercy, par exemple, bon, c'est que ça va. Hein.
Oui, c'est que ça va.
Oui, justement, c'est quoi votre explication, du coup?
Mais on n'a pas d'explication. C'est un peu...
Déroutant. Une méconnaissance.
C'est déroutant, quoi. Et nous, ça fait des années que c'est déroutant, mais bon, on s'est fait...
Vous avez fait une raison. Oui.
Oui. En plus, bon, nous, on n'a pas à se plaindre. Dans toutes les capitales européennes, on fait du monde. D'ailleurs, on fait plus de monde à Amsterdam, par exemple, qu'à Bordeaux. On fait plus de monde à Bruxelles qu'à Marseille.
Enfin, c'est normal, ça.
Mais oui, c'est les Belges,
c'est les Espagnols, les Portugais, enfin, partout. Et bon, sans compter, je ne sais pas, les États-Unis, le Canada, enfin, bon, je n'ai pas cité tous les pays. Mais donc, nous, on n'a pas de raison de pleurer, sauf que, voilà, on ne fait pas les courses tout seul. Y a tous nos petits frères qui arrivent derrière, qui essayent, qui aimeraient bien aussi avoir des carrières. Alors, dans le jazz, il y en a plein.
Et le jazz, ça vous inspire dans votre musique du quotidien? Il y a des sonorités comme ça qui peuvent se retrouver dans un air de zouk.
Alors le problème, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse me donner une version, enfin du moins une explication pour me dire ça c'est du jazz, ça c'en est pas. C'est des trucs où il y a partisans, des gens qui disent oui ça c'est de la merde, ça c'est bien. Bon, mais quelqu'un qui me dise voilà le jazz, ben, ça c'est du jazz, et ça c'en est pas. Bon, j'ai même retrouvé un truc très surprenant. Kassav joue dans des festivals de jazz.
Oui, mais en fait, c'est vrai que dans les festivals de jazz en général, il y a de tout. En fait, il y a de la soul, il y a vraiment.
C'est de la musique, tout simplement.
Exactement, voilà. Tout simplement. Ils ont compris que voilà, c'était des musiciens. Je vais continuer à parler de musique parce que je voulais partager avec vous un coup de cœur que j'ai eu pour un documentaire intitulé Inna Di Yard. C'est le nom de ce projet de réunir dans un même collectif ancienne et nouvelle génération du reggae jamaïcain. Inna Di Yard, en patois jamaïcain, ça veut dire dans la cour, car c'est comme ça qu'est captée la musique. Voilà, dans la cour d'une maison avec la nature en fond sonore. Le projet s'appelle, l'extrait s'appelle Soul of Jamaica. On y retrouve évidemment des légendes vivantes du reggae. Il y a Ken Boots, il y a Winston McAneff, Kidusai, Cédric Myton des Congos. Et la nouvelle génération qui est aussi avec eux, il y a Var, des Raja, une chanteuse qui s'appelle Janine. Un premier opus, Soul of Jamaica, était sorti il y a 2 ans. Le deuxième est sorti cette année. Et c'est justement l'enregistrement de ce deuxième album qui a fait l'objet d'un documentaire par le réalisateur britannique Peter Weber. Et le documentaire est encore à voir dans quelques salles de cinéma en ce moment.
The Inna Di Yard project is really capturing the music in its virgin state. Some countries have diamond, some countries have pearl. We have reggae music. When I fall in love, when you
fall in love. Voilà, certains pays ont des perles et des diamants, ils ont le reggae. Le film s'appelle Inna Di Yard, il est signé Peter Weber et je le recommande. Que vous soyez connaisseur ou novice d'ailleurs de cette musique, c'est une plongée historique dans la Jamaïque à travers sa musique, ses artistes. C'est une île de musique, la Jamaïque, comme les Cuba qui avaient vu le Buena Vista Social Club, on s'en rappelle, qui fonctionnait sur ce même principe de nouvelles et d'anciennes générations de musiciens ensemble. Est-ce que ce serait possible pour le Zouk, justement, cette jonction-là?
C'est possible.
C'est possible.
D'ailleurs, ça a été rendu possible par la formule Grand Méchant Zouk, créée par Jacob. D'ailleurs, qui réunit justement les gens comme Kassav, qui sont à l'origine du zouk et la nouvelle génération. Jusqu'à la nouvelle génération, en fait. Voilà.
Quels sont les artistes de cette nouvelle génération? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns?
Waouh, je vais me faire des copains.
Ah oui. Ah oui, non, ça c'est la mauvaise idée parce que vous allez forcément en oublier. Donc je vous fais un mot.
Et ceux que je veux oublier, évidemment.
Oui,
ça va. Bon, il y en a pas mal, on pense aux notamment
Fanny J.
Il y a Admiralty. Il y a beaucoup d'artistes antillais. Mais il y a aussi des pays qui se sont appropriés le zouk, parce qu'ils sont nés dedans, voilà. Et puis qui le développent à leur sauce, par exemple l'Angola, le Mozambique, les îles du Cap-Vert, le Brésil, en fait, beaucoup de pays lusophones, en plus, c'est surprenant, parce que ils développent ça à leur sauce, quoi. Ils font évoluer ça autrement. J'ai l'impression de me retrouver un peu comme à l'époque où le rock a commencé avec Chuck Berry, avec Turner, tout ça. Et puis, quand je vois le chemin qui a été parcouru pour arriver à U2, à, je sais pas, INXS, à n'importe lequel au hasard aujourd'hui, je me dis, ah ouais, quand on parle de Chuck Berry, on arrive à U2. Ouais, ben oui.
Ben oui.
Ben, nous, c'est en train de faire pareil, sauf que nous, il y a beaucoup moins de temps. Hein. Bon, nous, ça a commencé dans les années 80. Là, on est en 2000, et puis on commence à voir déjà les directions qui se prennent, quoi.
En tout cas, on voit des groupes lusophones justement dans ce documentaire qui reprennent carrément vos chansons, c'est assez troublant. Ouais. Dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur avec vous. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est le principe de ce club de l'été sur Europe 1. Et comme tous les matins, nous sommes très bien accompagnés avec nos invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Cassav qui fête ses 40 ans de carrière cette année. Jocelyne et Jacob, est-ce que vous regardez encore la télévision ?
Si, si, les infos.
Oui, les documentaires.
J'allais dire la bourse, mais c'est pas vrai.
C'est vrai, vous regardez la bourse ?
Non, non, non. Ça fait sérieux quand on
dit
ça.
Oui, c'est ça. C'est donc vous qui regardez la bourse. Non. On cherchait le téléspectateur.
Et non, de temps en temps, vers 11h du soir, quand j'ai rien à faire chez moi, je peux m'asseoir devant, regarder un truc. Mais bon, voilà.
Et bah justement, j'ai pensé à vous, Jocelyne, puisque vous aimez les documentaires, quels qu'ils soient, et vous qui avez une autre île de cœur, la Barbade. J'ai trouvé un programme qui va vous faire voyager. Il s'agit de la très bonne émission Échappée Belle diffusée sur France 5 qui a consacré un numéro à deux îles anglophones des Antilles, donc il y a Sainte-Lucie et la Barbade.
Ah. On a des grottes, on a des réserves naturelles, on a du soleil, on a de la plage blanche, on a toujours l'un des meilleurs rhums du monde.
Ça, je l'ai entendu dans tous les pays de la Caraïbe. Hein. Tout le monde a toujours le meilleur rhum. Hein.
Ouais, mais ils ont tous tort, c'est la Barbade.
Comment vous vous qualifiez, les Barbadiens ? Quel est votre tempérament ici ?
Les Barbadiens sont très fêtards. Très joyeux, très amicaux.
Alors, il a réussi à trouver un habitant de la Barbade qui est belge. Vous avez reconnu l'accent, Sophie Moon. Il est moitié barbadien, moitié belge. J'ai pas fait exprès.
Je vais le rencontrer.
Une émission qui est visible.
Vous voulez goûter le rhum, Sophie. Arrêtez de me faire croire que c'est une émission qui vous intéresse.
C'est une émission visible quand vous voulez sur Internet, sur le site les-docu.com. Jérôme Pitorin, qui est le présentateur, va tenter de trouver la maison de Rihanna, mais alors sans succès. Il va découvrir la Barbade avec son corail, son calcaire et ses poissons volants semblables à des colibris. Jocelyne, pourquoi est-ce que c'est votre région de cœur aussi, la Barbade?
Peut-être, sans doute, parce que mes parents, ce sont les premiers endroits où j'ai voyagé quand j'étais petite. Nos parents partaient en vacances quelquefois 15 jours et on allait souvent à la Barbade. Voilà, donc j'ai pris l'habitude, c'était ma deuxième destination aux Antilles. Et j'ai plein d'amis là-bas maintenant, ce qui fait que j'ai même une cousine qui y vit. Enfin, bon, je veux dire, c'est une île que j'aime particulièrement. Elle fait la moitié de la Martinique. La Martinique a 80 km de long. Elle est entre 40 et 50 km de long. Et elle est plus plate que la Martinique et compagnie. Mais je ne sais pas, j'aime les gens, j'aime la vie là-bas. Quand j'arrive là-bas, je suis bien. Voilà.
Alors, on va quand même trancher cette épineuse question dont on parle dans ce sujet avec notre ami Modération. Quel rhum est le meilleur ? La Martinique, Guadeloupe ou Barbade ?
Martinique.
Moi, je suis pour la Guadeloupe, mais bon.
Alors, je vais vous dire, vous n'avez qu'à chercher qui a eu le plus de médailles d'or.
Et alors, c'est qui ?
Et c'est la Martinique.
Oui,
mais c'est vrai, j'ai même été à la Réunion. Pardon, les Réunionnais. Ouais. Un jour, j'étais à la Réunion. Il y a un monsieur qui a essayé, il était au bar, il a essayé de me faire goûter à toutes sortes de mélanges, de mâches, etc. pour finalement me dire, oui, mais bon, moi, chez moi, j'ai du rhum de la Martinique, parce que je lui ai dit que ça pêchait. Je pense que c'était le truc premier, le rhum, c'était la chose la plus importante. Et le rhum de Martinique a extrêmement la cote, même chez les Guadeloupéens. N'écoutez pas Jacob, il ne boit pas.
Vous allez dire quoi ?
Il boit pas, il boit pas.
Je pensais trouver un allié guadeloupéen, mais
si,
non.
Je ne bois pas.
Ils sont très réputés. Bologne, d'accord, quand même.
Non, c'est même pas ça.
Avec modération.
Je sais simplement que les gens qui font le rhum en Martinique, en fait, ce sont ceux qui ont échappé à la guillotine en Guadeloupe, à l'époque de la Révolution, je sais pas. Il faut regarder l'histoire, quand même. Ils ont été se réfugier en Martinique parce que c'était sous protectorat anglais. Et maintenant, bon, Voilà, ils se disent. Alors bon, ils se disent martiniquais, ils sont martiniquais. Hein, bon, ils ont des médailles d'or, ben oui, ils sont plus branchés sur le lobbying et tout ça. Ben,
voilà. Et la meilleure mauvaise foi, elle est d'où?
Je me rappelle plus
la définition qu'avait donnée mon cousin. Le rhum, c'est une boisson à base de canne fabriquée en Martinique. Mm-hmm. Et les autres, là, c'est d'alcool.
Voilà.
D'accord.
On va juste rappeler qu'effectivement,
on ne tranchera pas cette question ce matin.
Pour ces rhums, Liz Made in Dom, hein, comme on les appelle, c'est du jus de canne qu'on utilise et pas de la mélasse.
Bien sûr.
Et donc, les puristes vont effectivement
évidemment
les trouver un petit peu plus qualitatifs.
Bah oui, évidemment.
Oui, c'est sûr.
Vous êtes d'accord là?
On parle des ivrognes ou bien des... On parle de quoi, là?
On parle des puristes, ceux qui aiment les bonnes choses. On parle de cela.
Ah, d'accord, ok.
Et puis, Jacob Desvarieux, vous vouliez nous parler de séries, parce que voilà, il n'y a pas que la télévision classique, on regarde aussi beaucoup de séries. Vous, vous aimez la série Prison Break?
Ouais.
Alors ça, c'est la version française du générique. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série? Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch pour ceux qui ne la connaissent pas?
Alors, c'est, ça se passe dans une prison. Enfin, en tout cas, la première saison, ça se passe dans une prison. Il y a un mec qui est couvert de tatouages, qui a l'air sympa comme ça. On se demande d'ailleurs pourquoi il est en tôle. Et puis, à chaque fois, on découvre que chacun de ces tatouages représente quelque chose, une partie de la prison. Enfin, c'est un plan pour s'évader, quoi. Et le gars, c'est le petit génie du coin. Et puis, il y a beaucoup d'humour dans... Même, pas de lui spécialement, mais de la façon de traiter les trucs, quoi. C'est qu'à un moment donné, ils arrivent à s'évader et ils se retrouvent en rase campagne. Et puis, il y a évidemment la police qui les poursuit. Et quand ils voient que la police sont derrière eux, alors tous les gars se retournent vers lui, puisque c'est lui le génie du coin. Il se retourne vers lui, il dit « Maintenant, on fait quoi ?» Lui, il se retourne, il dit « Ben, on court
!» Elle n'est pas toute récente, cette série, Jacob Desvarieux. Vous n'en avez pas une depuis qui a trouvé grâce à vos yeux
Si, il y en a une qui est bien. C'est, comment ça s'appelle, The Young Pope. C'était l'histoire d'un nouveau pape.
D'accord, je ne la connais pas, celle-ci.
Voilà, qui est américain, d'ailleurs, je crois. Et puis, il arrive à Rome, enfin, et puis il y a toutes sortes d'aventures. Alors, je la trouve bien parce que je joue dedans, simplement.
Ah, mais vous avez raison. Il faut faire sa publicité.
Non, je plaisante.
Non, mais je sais bien.
J'ai eu un tout petit rôle à côté de Jude Law et des gens comme ça.
Ah, mais c'est clair. Bah oui, d'accord.
Non, mais je peux me la péter un peu.
Ah, bah, vous devez même.
On va garder pour Jude Law, quand même.
Non, mais au-delà de ça, je me rappelle. En fait, j'ai pas tout vu. J'ai vu 2-3 épisodes. Mais ça avait l'air vachement intéressant, quoi.
Bah ouais, en tout cas, c'est bien. Merci pour tous ces conseils. Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux, dans un instant, va nous rejoindre dans ce studio. Elsa Lévy, qui a une difficile mission, celle de lire la presse féminine pour nous. Et on la retrouve juste après vous. Pardonnez d'avance mon accent entier qui n'est pas encore au top. Moins maladao, Kassav sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
C'était Kassav sur Europe 1 en musique et en studio avec nous. Dans un instant, Elsa Lévy nous rejoint pour sa revue de presse féminine décalée. À tout de suite.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Il est 9h51 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec nos invités Jocelyne Berroir et Jacob Desvarieux du groupe Kassav. Jocelyne et Jacob, je vous présente Elsa Lévy.
Bonjour.
Elle décortique à sa manière la presse féminine. C'est mieux que ce soit à sa manière d'ailleurs.
Ouais, oui, enfin, c'est
là que ça devient intéressant. En fait.
Alors en tout cas, quand j'écoute votre musique, ça me donne vraiment la pêche. J'ai même l'impression que l'été peut durer toute l'année. Mais figurez-vous qu'on est à peine le 7 août et pourtant les magazines commencent déjà à nous plomber avec la rentrée.
Oh non.
Et
c'est parti. Ah oui, ils sont déjà à fond.
C'est fini les régimes.
C'est la rentrée. Non, il va y avoir les régimes post-été, mais on n'y est pas encore. Là, par exemple, dans le magazine Avantage, il y a une double page pour une rentrée anti-galère. Alors, avec des outils pour gérer la paperasse, la garde d'enfants, acheter ses fournitures en ligne encore faire appel à Bruno, un conseiller virtuel qui nous fait épargner sans qu'on ait à y penser. Alors, c'est trop fort, j'ai même envie de dire merci.
Merci Bruno.
Merci Bruno. Merci tout ça. Parce que c'est super, mais ça ne sert à rien de nous bassiner avec le yoga et l'instant présent si c'est pour nous parler rentrée en plein été. Il n'y a que Cosmopolitan qui, lui, vit dans le passé, puisque dans son numéro du mois d'août, on trouve un article intitulé « Avant l'été, je mets ma peau au repos ».
Ouh là là,
alors, oui. Peau au repos, le jeu de mots est sympa, mais il aurait mieux fallu nous en parler au mois de juin, c'était plus approprié.
Ouh là là, et vous allez vous faire embaucher par Cosmo, faites attention.
Cher, tu retires ce jeu de mots. Alors, quoi qu'il arrive, en attendant la rentrée, la vraie, il se trouve que c'est encore l'été, et qui dit été dit surtout « job d'été ».
Ah, faut bosser. Ah
ben oui, pour beaucoup, c'est la période des petits boulots. D'ailleurs, je suis tombée sur un article dans Cosmopolitan toujours, qui explique que les places sont chères. Il y aurait 700 000 candidats recensés pour un emploi saisonnier.
Ah oui.
Wow.
Et toujours d'après ce magazine, les jobs où il y a du job, c'est vendeuse, serveuse et hôtesse de caisse.
Et il y a d'autres bons plans quand même comme job?
Ah bah oui, si on aime le sport et qu'on n'est pas trop pressé, j'ai lu que pour les JO 2024, on devrait créer 150 000 jobs.
Okay.
Et on peut déjà postuler, non pas en traversant la rue, c'est encore plus simple, on s'inscrit de chez soi sur le site de l'organisation. Bon, après, la plupart de ces jobs seront que de 2-3 semaines, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je lisais dans Gala, autre grande source, que Rachida Dati avait postulé pour un job d'été dans une clinique.
Ah bon?
Elle a commencé par faire le ménage, puis grâce à son potentiel, elle est devenue aide-soignante et a travaillé dans cette clinique pendant 5 ans.
Ah oui.
Donc pour un job d'été, c'est quand même un happy end.
Oui,
je dis ça parce que le mot job d'été, il est sympa. Job d'été, job d'été. Ça sent le monoeil et les cocotiers. J'entends même... malgré tout, je trouve le terme job d'été un peu suspect.
Bon, dites-nous concrètement, justement, c'est quoi un job d'été?
Ah bah justement, je me demande. Parce que par exemple, dans Cosmopolitan, on me propose comme job d'été la cueillette.
Ah.
Le secteur recruterait dès le mois d'avril. Mais là, je trouve ça ambigu, vu que c'est un peu à cheval sur le printemps. Peut-être un job printemps-été, du coup,
oui,
je ne sais pas.
Ah oui, c'est comme la mode.
Car si finalement, on s'en fiche des saisons, je me dis que Père Noël à Noël aussi, c'est un job d'été.
Bah oui.
Sauf qu'il neige. Enfin, pas toujours. Et avec le dérèglement climatique, c'est de plus en plus compromis. On va avoir de plus en plus chaud.
Surtout. C'était pas obligé, ça.
Si,
ok.
Vous verrez pourquoi.
Ah bon, surtout.
Vous reculez devant rien.
Surtout que j'ai trouvé un article dans Le Figaro Monsieur, pas Madame. Un article qui explique que la durée des contrats temporaires diminue constamment. Elle est passée de 3 mois en moyenne à 1 mois. Voilà, c'est pour ça. C'est pour le régime. Et ces contrats temporaires, c'est 87% des embauches. Du coup, je me dis, pourquoi appeler la loi El Khomri la loi travail? C'est la loi job d'été comme d'hiver. Une autre façon de le dire, c'est qu'on est en job d'été à l'année. Alors, j'ai envie de dire bon courage à tous les jobbeurs, parce qu'on dit comme ça, on ne dit pas les jobards. D'ailleurs, en parlant de bar, tiens, voilà un secteur où il y a du boulot. Il y a quand même 80% d'emplois en CDI. Et en plus, il y a le choix pour jobber et jobba.
Cosmo va vraiment vous appeler, Elsa Lévy, attention.
Je ne demande que ça. Les bars, donc, c'est pas ce qui manque. On peut bosser dans un bar à vin, par exemple, en mettant un peu d'eau dans le sien, ça peut être sympa. Ou un bar à soupe, faudra juste éviter de cracher dedans. Après, si on aime sentir la mer, même l'hiver, un bar à huîtres. En plus, là-bas, on peut même manger du bar. C'est fou, non?
Oui.
Ou sinon, un bar à ongles, histoire d'être payé rubis dessus. Bref,
ouh,
je m'égare.
Quel talent, mais quel talent.
C'est pas possible.
Oui, moi, lâchez plus s'ils suivent.
Ah, oulala.
Bref, je m'égare. Mais finalement, à la question, c'est quoi un job d'été? Ben, moi, je dirais que c'est un peu un concept de comptoir ou de bar. Un bar qui servirait que du thym, un petit bar à thym.
Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique.
Merci beaucoup. Merci.
Quelle chronique.
Merci Elsa Lévy, mais vous êtes surpassée aujourd'hui. On était sur
ouais,
de...
ouais.
C'était du haut niveau.
En tout cas, vous avez beaucoup apprécié. C'est pas forcément votre truc, la presse féminine, si vous la lisez, dans les avions, dans les trains, dans les...
Avant.
Oui, avant.
Avant un peu, moi, maintenant.
Quand vous aviez du temps.
Voilà.
J'avais une question pour vous. Pour les 20 ans du groupe en 99, vous avez rempli Bercy pendant 2 jours. Pour les 30 ans en 2009, vous avez rempli le Stade de France. Vous étiez le premier groupe français à remplir le Stade de France. Pour les 40 ans, vous avez joué à la U Arena à Nanterre. Et des témoins, j'en avais beaucoup dans la salle, qui m'ont dit que vous avez retourné cette salle de 40 000 personnes. Pour les 50 ans, on prévoit quoi ? qu'est-ce qu'on peut trouver de plus grand que ça ?
Alors, avec les progrès de la science, on devrait y arriver.
Oui.
Hein, avec les progrès de la médecine, on pourrait faire, je sais pas, un concert.
Mars. Sur la planète Mars.
Je sais pas si.
On pourra presque y aller.
Dans 10 ans, je suis pas sûr qu'il y aura encore des gens.
Ouais, moi, j'irai pas vous voir sur Mars. J'aimerais mieux sur Terre quand même.
Ouais, non, mais sur Terre, on peut tenter de faire un concert pour 1 million de personnes. Ça peut être une idée. Bah, tant qu'à faire.
Bah oui. Alors, on le fait où, du coup?
Bah, je sais pas, justement, c'est ça qu'on cherche. Parce qu'avant de faire l'Arena, on avait d'autres idées. Hein. On voulait faire le Trocadéro, on a dit « Ah mais non, il y aura le feu d'artifice, machin. » On a cherché plein d'endroits. Alors ouais, 1 million de personnes, ça rentre dans quoi 2 ou 3 terrains de foot, quoi. On va bien trouver un endroit.
Alors du coup, ça veut dire qu'on ne pourra plus jamais vous voir dans des petites salles. Est-ce que vous ne pourriez pas faire des petites salles, mais très très longtemps?
On peut faire des petites salles très longtemps, ça, très moi. Très chères.
Ouais, parce que
je préfère
autre
des
chose.
Petites salles très longtemps.
Vous pouvez
longtemps.
Prendre l'Olympia pendant 1 an, par exemple. Non.
Oui, on peut faire ça. Oui, ce sera très cher.
On va commencer par une semaine.
Oui. Après 1 mois. Voilà. Après 2 mois. Après 3 mois.
Doucement.
Et ici, on est dans une toute petite salle. On pourrait avoir comme ça une petite note. Je sais, c'est pas du tout prévu. Comme ça, on pourrait entendre quelques petites choses là, a cappella.
Non, comment on fait pour se défiler de ça?
Vous pouvez vous défiler.
En général, il faut avoir chauffé la voix.
Oui,
on est le matin.
On verra si on peut tout à l'heure. En tout cas, vous avez sorti cet album. Comment est-ce qu'on fait pour choisir 35 titres sur 40 ans de carrière? Vous avez eu des grosses discussions au sein du groupe?
Non, on donne le job à
Jocelyne.
Ah, c'est Jocelyne qui a tout fait.
Alors, comme j'ai toute la liste de toutes les compilations officielles que nous avons faites, je la prends et j'essaie de varier les plaisirs, voilà.
Et comment on fait ce choix? Par époque?
Par époque, oui. Alors j'ai la liste de tous les titres, des titres phares incontournables, des titres qu'on a déjà trop entendus et qu'il faudrait peut-être
C'est lesquels qu'on aurait trop entendus?
Si et Boise, donc là c'est le médicament
de qui du coup n'y sont pas dans...
ça existe déjà dans les autres compilations.
Bah oui, c'est ça, Collé Serré avec Philippe Laville, aussi dans d'autres compilations.
Voilà. En fait, les gens n'achètent pratiquement plus de disques, ils achètent les morceaux un à un. Donc idéalement, ce serait d'avoir tous les titres de Kassav en ligne. Oui. Donc, tant qu'à faire, il faut varier les plaisirs les compilations qu'on fait. Voilà.
Bon, en tout cas, il y a 35 titres, donc vous avez de quoi écouter. On va continuer d'en parler. Le Club de l'été se poursuit évidemment encore pendant 1 heure jusqu'à 11h. On se retrouve tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le Club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du Club de l'été sur Europe 1, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour nos deux invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Kassav. Sophie Massieu, où est-ce que nous partons ce matin grâce à vous?
Eh bien, nous irons au Mémorial Actin, à Pointe-à-Pitre évidemment.
Très bien, on va se délocaliser, on sera même en direct avec les 6 heures de décalage horaire. Et Sophie Mounce, vous nous proposez une spécialité d'une autre île,
oui,
la Réunion.
La Réunion, et je vais vous faire découvrir le galabet, un grand sucre, un très très grand sucre.
Et vous en avez en studio.
Je déballe ça, c'est un petit lingot d'or, on va savourer.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1,
Lise Pressac.
Chers invités, je vous propose de prendre notre machine à remonter le temps. On va voyager en musique dans votre vie. Savez-vous, par exemple, Jocelyne et Jacob, quelle chanson tournait en boucle à la radio à l'été 79, année de naissance du groupe Kassav? On était sur quel genre de groupe, à votre avis?
Disco.
Ouais, c'était un truc... Je veux dire,
ou là-bas?
Ici.
Ici.
Ah, ici, en 79.
Ah, c'était ça. C'est ça, on était sur de la disco.
Ouais.
Eruption.
Ah oui.
Ça nous rajeunit pas. En 85, quand vous remplissez votre premier Zénith à la radio, on écoutait plutôt ça. Alors depuis, on a été habitué à un remix qui va beaucoup plus vite que celui-ci. Et enfin, en 1992, quand vous êtes à l'affiche du film Siméon de Zane Palsy, l'été, on chantait alors très faux là-dessus.
Moi vouloir être le chat quand dehors il fait froid. attendre mon repas.
Je vous ai parlé de ma voix, c'était le groupe Powo, et j'en parlais justement de ce film, de votre, cette expérience sur grand écran, le film de Zane Palsy. C'était une sorte de fiction autobiographique, c'était ça un petit peu l'histoire de, oui, de ce film. Et après, il y a eu d'autres expériences au cinéma. Bon, Jacob Desvarieux a joué auprès de Jude Law, ça je ne le savais pas pour une série, mais Jocelyne Béraud, vous avez été dans Negmaron en 2005, Le Gang des Antillais en 2016, Rose et le Soldat en 2018, ce sont trois films de Jean-Claude Barny. Il y a eu Le Rêve français aussi, très bonne mini-série qui a été diffusée sur France 2 en 2018. C'est un exercice que vous aimez, ça ?
Oui, c'est amusant, en fait. Je veux dire, j'aime prendre des risques et puis voir quelles sont mes limites, véritablement. Je crois que c'est ça. C'est toujours... Je pense que quand on chante, de toute façon, c'est une façon de raconter une histoire. Donc, on est obligé de jouer, pas de séduire, mais de convaincre la personne et pouvoir faire passer l'émotion. Et je crois que le cinéma, c'est la même chose. Et déjà, à chaque moment, c'est pas un truc qui doit être... préfabriqué, mais quelque chose qui doit être complètement naturel, donc ressenti. Et donc, c'est un peu... C'est ma façon de m'amuser.
On vous en propose souvent des rôles ?
Non, pas vraiment. Mais on m'a proposé plein de rôles que j'ai refusés aussi, parce que c'était pas des choses que j'avais envie de défendre. Quoi.
Parce voilà. que c'était quoi vous ne retrouviez pas
c'était
dans le rôle, forcément ?
C'était un peu trop exotique, c'était enfin une fausse idée de qui j'étais.
Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, on était sur du cliché, par exemple.
Voilà, exactement. Ça.
Alors, on a écouté un petit peu de musique. Est-ce que c'est ce que vous écoutez dans vos oreilles, ce genre de choses ? Ou vous, c'est quoi votre playlist ? Qu'est-ce que vous écoutez ?
Moi, j'ai des goûts éclectiques. Complètement.
Moi, voyais beaucoup apprécier le titre de M, notamment tout à l'heure, qu'on a passé, c'était bien.
Oui, ça swingait bien. Moi, je veux dire, j'ai étudié la musique classique quand j'étais petite. J'ai fait 6 ans de piano classique, donc je connais les grands classiques des classiques. J'adore l'opéra, par exemple. Mais j'aime aussi, j'aime toutes les musiques. Le jazz, la salsa, la soca, le zouk. Dès que ça me touche, quoi.
Oui, tout.
Voilà, tout.
Jacob Desvarieux, c'est un peu la même chose. Il y a de tout dans votre playlist musicale.
Oui, il y a toutes les musiques qui passent au moment où je suis là ou au moment où mes oreilles passent dans le coin. C'est-à-dire, j'écoute, il y a des trucs que j'aime moins que d'autres, pour plein de raisons. Je me dis, ça, c'est ce que je ne vais pas faire.
Ouais.
Voilà, et puis, il y a tout ce que j'apprécie. Mais dans toutes les musiques, j'arrive toujours à trouver quelque chose que j'aime bien.
Est-ce qu'il y a une chanson qui vous quitte jamais, une dont vous vous lassez jamais et qui est peut-être le truc que vous mettez, je ne sais pas, avant un concert ou pour vous mettre la pêche ou... Vous avez une chanson de chevet comme ça ?
Pas une.
Plusieurs ?
Plusieurs.
C'est quoi ?
Bah, à une époque, j'avais une chanson qui était en fait le générique d'un film Cry Freedom d'Afrique du Sud. C'était le générique de fin qui m'avait scotché. À la fin du film, j'étais restée debout. Tous les gens sortaient de la salle et moi, j'étais complètement scotchée. Les arrangements étaient absolument fantastiques. C'est George Fenton, je crois, mais la musique est de Jonas Gwangwa au départ. Et c'est magique, c'est magnifique, c'est un mélange de classique et de d'Afrique du Sud, et ça m'avait fasciné. Donc c'était une musique qui me reboostait quand j'étais un peu déprimée et compagnie. Mais sinon, il y a plein de chansons. Il y a des chansons de Kassav, il y a Stevie Wonder, il y a Piaf, Brel, toutes sortes de choses. Et les chansons coréennes, ces temps-ci, je suis en train de découvrir.
Ah bon ?
Non, pas la K-pop.
Pas la K-pop, qui remplissent des stades aussi.
Non, pas la K-pop. La K-pop, c'est rigolo, c'est machin. Enfin, j'aime bien la production elle-même est intéressante à voir. Mais je veux dire, il y a de vrais... grands chanteurs qui ont un vrai feeling, quoi. Et donc, je cherche. Et j'ai quelques chansons que j'aime beaucoup qui me touchent émotionnellement. Voilà.
Bon, je vous propose de garder Kassav dans nos oreilles pour partir en Guadeloupe juste après le journal de la culture de Sophie Massieu. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
C'est Jocelyne Béroir qu'on entend chanter Si Haut. Nous sommes toujours en direct sur Europe 1 et il est 10h12. On est ensemble jusqu'à 11h avec nos invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Kassav et mes deux acolytes, évidemment Sophie Massieu, experte patrimoine, et Sophie Mounz, experte culinaire. Avant d'aller faire un tour du côté de la Guadeloupe et d'écouter Sophie Massieu pour son journal de la culture, je voulais simplement dire un petit mot de l'écrivaine américaine Toni Morrison qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Elle a été la première femme noire à recevoir le prix Nobel en 1993. À travers ses romans, elle a exploré toute l'histoire des Noirs américains depuis leur mise en esclavage jusqu'à leur émancipation dans la société américaine actuelle. Barack Obama lui a rendu hommage en la qualifiant de trésor national. Et nous voulions nous aussi lui rendre un hommage en vous conseillant la lecture de Beloved notamment. C'est l'histoire d'une mère qui égorge sa fille par amour pour lui éviter de devenir esclave. C'est un roman inspiré d'une histoire vraie qui lui a valu le prix Pulitzer en 1988. Sophie Massieu, bon, plus réjouissant, dans votre journal de la culture, vous avez d'autres nouvelles pour nous.
Pardon, le vous micro écoute. Avait été fermé, pardonnez-moi. On commence, Lise, effectivement, notre journal de la culture aujourd'hui par une visite à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris.
Ah, génial.
Comme toujours, dans les expositions qu'elle propose, on apprend des tas de choses en s'amusant et ça marche même avec ceux qui, comme moi, à la base, ne sont pas de grands passionnés par les sciences. Eh oui, cet été, vous pouvez vous intéresser au-dessous de la grande vitesse ferroviaire. Comment faire avancer un train de 400 tonnes à plus de 300 km/h ? Comment construire des voies adaptées ? Comment aussi garantir la sécurité de tels convois ? Vous savez, vous,
Alors, mais j'en ai aucune idée, mais vraiment aucune.
Eh ben moi non plus.
Mais bon, ben voilà. Heureusement qu'il y a une expo
mais
pour ça.
Mais voilà, pour nous l'apprendre, des jeux interactifs, des quiz et même un simulateur de conduite sont à votre disposition dans cette exposition. Et je me suis laissé dire que ça amuse autant les grands que les petits. Pour tout savoir sur les aspects techniques, scientifiques, mais aussi humains de cette grande vitesse ferroviaire, rendez-vous donc à la Cité des sciences et de l'industrie pendant encore une grosse semaine. C'est jusqu'au 18 août, c'est dans le 19e arrondissement de Paris, donc dans le Nord, au 30 avenue Corentin Cariou. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h, et le dimanche, même jusqu'à 19h. Cela coûte entre 9 et 12 euros, selon que vous avez droit ou non au tarif réduit.
Alors Sophie, on part maintenant en Normandie.
Oui, Lise, la saison des festivals continue évidemment à battre son plein et aujourd'hui je vous propose un rendez-vous à la fois culturel et historique. Culturel parce qu'on va y écouter de la musique, voire découvrir des artistes pas si connus que ça en France, et puis historique parce qu'il s'agit de rendre hommage aux soldats canadiens et acadiens, qui ont participé au débarquement de 1944. Vous le savez, Lise, hein, c'est cette année le 75e anniversaire de cet événement majeur. Donc je vous emmène dans le Calvados à la semaine acadienne. Elle commence demain, le 8 août, et elle proposera ses réjouissances jusqu'au 15 dans plusieurs villes de la côte, plusieurs communes de la côte. Et au menu de cette 14e édition, notamment cette voix. Il faut dire que les temps ont changé. Est-ce que vous avez reconnu,
Mais évidemment, Diane Tell.
Ah, vous êtes trop fort. Alors moi, j'adorais hein, quand j'étais petite.
Moi aussi.
Surtout l'idée de devenir capitaine.
Ah oui.
Eh oui. Bref, Diane Tell donnera son concert le 11 août à 20h. En plus des concerts, de nombreuses animations permettront de mieux connaître cette page de notre histoire commune, dont certaines ludiques, comme ce rallye qui est organisé demain, le 7 août donc, à 10h, sur les traces des soldats au départ de Courseul. Les amateurs de vélo, eux, pourront participer à une rando cyclo historique. Ça, c'est le 9 août, donc vendredi, à 14h, entre Courseul et Carpiquet. Et puis, ceux qui préfèrent marcher, eh ben, ils en auront aussi pour leur compte, avec une randonnée commentée lundi 12, entre Saint-Aubin et Courseul. Lise, pour danser, je sais que vous aimez bien danser.
Oui.
Ça, c'est dimanche, c'est à 14h dans un bal country.
Ah ok, je ne suis pas sûre de maîtriser la country, mais oui, mais c'est toujours
ce
pas
sera
le temps
l'occasion
pour danser.
Et Sophie, si vous voulez faire un stage de cuisine acadienne, ça c'est le 14 août.
Oh oui,
ouais,
oui,
c'est
j'arrive.
De 10h à 14h. Voilà, donc la semaine acadienne, c'est donc dans le Calvados, dans tout un tas de communes de la côte. Et c'est jusqu'au 15 août. Jour de la fête nationale, soit dit en passant, de l'Acadie. Et pour en savoir plus, direction les offices du tourisme de Courseul et Saint-Aubin.
Alors, on traverse la France et on arrive à Marseille.
Absolument. Et on va y retrouver, de ce pas, Emmanuel Lenné, l'artiste qui a composé une exposition immersive, dont rien que le titre, je trouve, est très beau. Suspension volontaire de la crédulité.
Ah oui, c'est
bonjour
bon.
Emmanuel Lenné.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez voulu travailler sur la frontière un peu entre nos vies personnelles et professionnelles. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça fait partie
c'est exactement
de...
Ouais. ça. C'est exactement ça. Et l'installation parle beaucoup de ça. C'est une installation qui mélange des grandes photographies trompe-l'œil et des objets personnels que j'ai collectés qui sont à moi et puis qui font partie de ma collection et qui sont des objets qu'on retrouve dans les environnements de travail.
Ces fameuses open space.
Les fameuses open space.
Ah là là.
Ou peut-être que vous en avez vous aussi
oui.
à la radio.
Oh là là, immense.
Bureau, voilà, où entre les dossiers, il trône des petites photographies de famille, des mugs, des objets personnels qui nous permettent
des plantes qui dépérissent.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces open space ? Parce que vous, en tant qu'artiste, vous devez y échapper globalement, non ?
Oui, en fait, d'une certaine façon, moi, j'ai pris la décision très jeune, comme ça, un peu romantique, de choisir la précarité et la liberté, et d'être mon propre patron et de pouvoir décider de ce que j'allais faire chaque jour, ce que j'allais produire. Et puis, bizarrement, en vieillissant, je me rends compte que j'ai l'impression que le monde qui m'entoure est en train de ressembler de plus en plus à ce qu'est la vie d'artiste. C'était en tout cas le monde du travail, et que finalement cette précarité que j'avais choisie, eh ben, elle m'entoure maintenant. Et puis que finalement les matériaux que j'utilise moi dans dans la fabrication, la réalisation de mes expositions, qui sont un peu le registre de base de l'exposition, c'est-à-dire la cimène. Ce matériau comme ça, ces modules très simples de bois, très rudimentaires, qui sont faits pour être démontés assez vite et qui sont proches de la signalétique, et bien en fait, elles sont cousines de plein de nouvelles designs, de nouveaux designs qui apparaissent comme ça dans le monde qui m'entoure, comme les guichets d'aéroport, comme les modules dans les open space, comme les cabines d'essayage finalement dans ces grands centres commerciaux. Et je me dis, voilà, il y a vraiment une sorte de le monde est en train de ressembler à une exposition par contemporain.
Oui. Alors, ça fait peur.
Qu'est-ce qui se passe, quoi ?
Ça vous effraie ?
Ben, je me demande si on ne va pas tout démonter finalement comme ça dans 3 mois. Et puis, je ne sais pas si ça m'effraie, mais je pense que en tant qu'artiste, c'est peut-être intéressant de se poser des questions et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des modèles de société qui sont fabriqués, qui ont été fabriqués par le monde de l'art au XXe siècle? Donc, alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une mission de l'artiste de peut-être les modifier?
Eh bien, pardonnez-moi. On va se poser les questions, nous aussi. On peut aller voir votre travail jusqu'au 29 septembre. C'est au panorama de la Friche de la Belle de Mai à Marseille, 41 rue Jobin, c'est dans le 3e arrondissement. Alors, votre exposition, elle est ouverte de mercredi au dimanche, donc on peut y aller dès aujourd'hui, de 14h à 19h pour ce qui est du mercredi au vendredi. Puis le week-end, c'est un peu plus long, c'est de 13h à 19h. C'est pas cher du tout, le tarif plein, il est à 5 euros. On y court. Merci beaucoup, Emmanuel Néné.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Et après Marseille, on recule devant rien. On va partir en Guadeloupe juste après Jane avec Omen sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour le club de l'été, un club ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h. On y parle de gastronomie et de culture sous toutes ses formes avec nos invités ce matin, Jocelyne Béroard et Jacob Desvarieux du groupe Cassave. Jocelyne, vous êtes née en Martinique mais vous n'y êtes pas restée longtemps. Jacob, vous êtes née à Paris, vous avez ensuite vécu entre la Guadeloupe et la Martinique, vous êtes passé aussi par le Sénégal. C'est où votre chez-vous aujourd'hui ?
Waouh.
Ça, c'est une partie dans citoyen le monde. Du monde.
Non. La Guadeloupe, c'est bien. Bon, j'habite à Paris parce que pour des raisons professionnelles.
Bah oui,
évidemment.
C'est plus facile.
C'est plus facile, mais moi, la Guadeloupe, ça me va bien. Hein. Je trouve ça sympa.
Vous y retournez souvent ?
Ben, le plus souvent possible.
Pour vous poser.
Me poser, non,
oui.
Ça,
jamais.
Ça, je connais pas. C'est-à-dire, ces gens-là me laissent pas. Voilà. Donc, je suis tout le temps en avion. Je passe en Guadeloupe. Des fois, je fais escale pour aller ailleurs. Des fois, l'escale dure une semaine.
Oui, c'est ça.
Voilà, bon, mais c'est le maximum.
Et vous, Jocelyne ?
Moi, ma base, c'est la Martinique. En fait, j'y ai vécu jusqu'à 17 ans. J'ai eu le bac, je suis venue ici. Évidemment, j'ai vécu plus souvent ailleurs qu'à la Martinique. Mais depuis l'an 2000, ma base est de nouveau est redevenue la Martinique. Et donc, je passe des heures dans les avions, comme Jacob.
Eh bien, nous, on va prendre l'avion, mais virtuellement, c'est beaucoup plus pratique grâce à Sophie Mathieu.
Et
on va aller en Guadeloupe.
Le bilan carbone. Oui, on va effectivement. Memorial Act, sa devise, c'est la mémoire inspire l'avenir. C'est un lieu de commémoration où on se recueille en souvenir des anciens esclaves, mais c'est aussi un lieu d'exposition et du spectacle vivant. Pour nous en parler, on a réveillé à peine plus de 4 heures du matin à cause du décalage horaire géante, Georges Brédan. Il est président de cet établissement public. Bonjour, monsieur.
Bonjour, je salue Jocelyne et Jacob également.
Bonjour.
Salut. Et merci de vous être réveillé si tôt pour nous aujourd'hui.
Ah oui, merci beaucoup. En plus,
vous avez
même la voix claire, c'est un bel effort.
Oui.
Alors, racontez-nous un peu quel est le propos de ce lieu et pourquoi l'avoir créé.
Eh bien, c'est tout d'abord, je m'incline devant la mémoire de Toni Morrison, qui est une grande romancière américaine, une grande voix de la cause noire et au-delà de l'humanité qui vient de nous quitter. Et je tenais à le dire d'entrée de jeu parce que c'est un lien bien évidemment avec la thématique de du Memorial Act qui vise justement à témoigner donc d'une histoire douloureuse qui vise également donc à expliquer cette histoire bon, de manière factuelle mais également dans une logique d'interprétation et qui vise à questionner finalement aussi le monde actuel qui doit s'interroger sur les formes contemporaines donc de l'esclavage et de résistance. Voilà, donc le Memorial Act vise à tout cela, et bien sûr à travers les lieux de monstration, salle d'exposition permanente, salle d'exposition temporaire qui évoque des questions de société et d'art contemporain, et qui vise donc effectivement à faire réfléchir.
C'est aussi une façon de dire que c'est notre histoire à tous, et pas seulement celle des personnes de couleur noire.
Tout à fait, c'est pas l'histoire simplement des personnes qui ont été réduites en esclavage, c'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui concerne l'humanité, c'est une histoire universelle, et à ce titre, elle doit être connue de tous, et elle doit être enseignée à tous, pour éviter justement que ce phénomène ne se reproduise quelque part, et pour éviter aussi, pour permettre aussi aux gens de comprendre finalement comment les sociétés contemporaines se sont créées, puisque nombre d'entre elles, notamment les sociétés européennes, ont été construites et fondées à partir justement de l'esclavage et du colonialisme, de sorte que il est important non pas d'inviter tel ou tel à la repentance, mais à la connaissance, à la meilleure connaissance du passé, et de manière à faire en sorte que justement cette connaissance du passé puisse servir le présent et l'avenir. Voilà donc la grande et belle cause que défend le Memorial Act, et c'est pourquoi il se donne les moyens de pouvoir toucher le plus grand nombre de personnes. La Guadeloupe s'honore d'avoir pu construire cet outil qui, bien sûr, a vocation à rayonner sur la Caraïbe, mais au-delà, sur le monde. Et nous le disons sans aucune prétention, parce que c'est vrai que c'est le lieu le plus important au
et
monde.
C'est un très beau bâtiment.
À la recherche. C'est un bâtiment sur le plan architectural qui laisse sans voix, finalement. C'est le bâtiment qu'on ne peut pas louper et ne peut pas laisser indifférent.
Vous accueillez régulièrement, vous l'avez dit, des expositions temporaires, comme à partir du 14 septembre, pardonnez-moi, celle sur le modèle noir, qu'on a pu voir initialement au musée d'Orsay.
Très, très belle exposition.
Il y a aussi parfois des conférences. Alors, en hommage à nos invités, j'ai retenu celle du 17 août qui traitera du Zouk. Ça, c'est dans votre salle des congrès, on l'a dit, lieu de commémoration, mais aussi lieu de vie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, pour venir vous voir, on va rue Raspail, à Pointe-à-Pitre. C'est ouvert, vous êtes ouvert du mardi au samedi. Samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Il faut compter 15 euros par adulte pour ce qui est du tarif plein. Les enfants de 3 à 12 ans ont eux droit à un tarif bien plus léger à 5 euros.
Merci beaucoup. Oui. Merci.
Merci
beaucoup, Georges Brennan, d'avoir été
Merci
en ligne.
Merci à vous.
On rappelle qu'il est 4h29 du matin en Guadeloupe.
Oui, mais écoutez, il n'y a pas d'heure pour défendre les grandes causes.
C'est vrai.
Il y en est une, et voilà. Et puis, Jocelyne et Jacob, encore une fois, ont plus de chance que moi. On va aller là-bas.
Bonne fin
de nuit. Je les salue de nouveau. Allez, merci bien.
Merci à vous, merci.
Merci beaucoup, Sophie Mounz. Vous avez choisi une autre île, La Réunion. Vous allez nous en parler tout à l'heure, dans un instant, sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes deux expertes, Sophie Massieu pour la culture et le tourisme et Sophie Mounz pour la gastronomie et la gourmandise. Et nous sommes toujours accompagnés de nos deux invités, Jocelyne Béroard et Jacob Desvarieux du groupe Cassav. Jocelyne et Jacob, est-ce que vous êtes gourmands ?
Oh oui.
Ne jamais poser une question comme ça.
C'est vrai.
Gourmet.
Gourmet et gourmand. L'un n'empêche pas l'autre. Quel est votre Madeleine de Proust culinaire, votre plat fétiche?
Mon plat fétiche, il y en a plein. Bon, on va commencer par le tchiboudjian du Sénégal.
Oui.
Voilà, apparemment,
faut
je
dire
suis pas
que c'est
le seul.
Délicieux.
C'est du riz du poisson. Hein.
Oui,
du brisé avec du poisson.
Avec des légumes et tout ça. Qui...
Ça, c'est... bon, encore avec du poisson, il y a le courbouillon de poisson en Guadeloupe.
Oui.
Après, il y a plein d'autres plats, mais enfin, bon, ceux-là, ces deux-là déjà, ouais.
Et Jocelyne Béroir, pour vous ?
Alors moi, si on parle de Madeleine de Proust, évidemment, c'est ce qui ramène un petit
c'est
peu
ça,
à l'enfant.
Vous le mangez, vous y pensez.
Moi, ce sont les soupes. Parce que bon, c'était la réunion familiale le soir et compagnie. Et il y avait une soupe que ma mère me faisait à chaque fois que je rentrais, qui est une soupe verte, qui est faite avec des gombos et des ce qu'on appelle les herbages chez nous, c'est-à-dire des feuilles un peu à la manière des comment on appelle ça encore, épinards. Voilà. Mais ce ne sont pas les épinards.
Hein. C'est le calacou.
C'est une autre herbe. Non, c'est le calalou.
Calalou, oui.
Ouais, le calalou, c'est ça. Une soupe que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Donc, ma mère la faisait régulièrement pour moi. Mais sinon, il y a ce qu'on appelle le pâté en pot, enfin, des trucs comme ça. Et c'est vraiment un pâté en pot. Et c'est vraiment... ce sont des soupes qui me rappellent mon enfance, parce que chaque fois qu'il y avait une fête familiale, on y avait droit.
C'était ça qu'on mangeait.
Voilà, c'est ça qu'on mangeait. Mais sinon, si je dois parler d'un plat que j'aime beaucoup, il y a le tinin morue. C'est de la banane verte avec de la morue salée qu'on a dessalée, mais qu'on mange avec des salades autour, tomates, concombres.
Oh là 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 là. On a faim et je pense que Sophie Mons ne va pas arranger notre histoire.
Mais nous, on va prendre un petit shoot de sucre.
On va parler d'une spécialité dont j'ignorais totalement l'existence, une spécialité réunionnaise.
C'est tout l'intérêt d'écouter Europe 1 hein, dans le club de l'été. Vous savez, on parle beaucoup de sucre, le diable incarné, ce sucre qui nous encrasse inéluctablement nos artères, etc. Mais au fond, on doit quand même jamais oublier qu'il y a sucre et sucre. Il y a un vrai sucre qu'on va savourer, puis il y a tous ces sucres cachés. En ce qui nous concerne ce matin, Lise, on va donc partir à La Réunion où nous rejoignons Alexis Rivière. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'heureux créateur, enfin non, vous allez nous expliquer que vous avez en fait fait revivre une recette de La Réunion. C'est un sucre que l'on appelle le galabé. Racontez-nous, Alexis.
Oui, c'est un produit qu'on trouve à La Réunion sous une forme de bonbon dans les années 50 et 60. C'est en fait du jus de canne cuit. Donc c'est pas un sucre cristallisé comme on a l'habitude d'en voir dans les supermarchés, c'est du jus de canne qu'on concentre et qui finit par prendre un aspect pâteux et qui, contrairement au sucre qu'on connaît d'ordinaire, est très riche en goût, a une texture intéressante. Et effectivement, nous avons relancé cette production depuis quelques années.
Alors, vous êtes l'arrière-arrière-petit-fils d'Yvrin Payet, qui était propriétaire de Domaine Cagnier sur l'île. Vous étiez un businessman à la carrière formidable. Et puis un jour, vous découvrez cette recette, vous la redécouvrez en réalité. Vous lâchez tout à Paris, vous partez à La Réunion et vous décidez de relancer, de revaloriser ce patrimoine agricole et culturel de votre terre.
Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai entendu parler de ce produit au détour d'une conversation familiale. Et je me suis dit que si ce produit était bon, si on pouvait proposer au public quelque chose qui, sur le plan gustatif, était intéressant, mais aussi lui apporter de la traçabilité, c'est ce qui manque aussi souvent dans l'univers du sucre, c'est dire d'où est-ce que ça vient. Et puis parler aussi à cette occasion un peu de l'histoire du domaine et de l'histoire familiale. On avait les ingrédients pour proposer comme d'autres produits ont su le faire ces dernières années, je pense notamment à l'huile d'olive, de proposer un produit qui se démarque, dont on souhaite qu'il devienne un peu une sorte d'étalon. L'idée, c'est de dire, dans l'univers du sucre, quel est le bon sucre ? Nous, on a une offre qui va dans ce sens-là.
Donc c'est un sucre, on l'aura compris, non raffiné, c'est ça ? Première pression à froid, sans additifs, sans conservateurs, sans colorants, c'est la quintessence du sucre finalement ?
C'est un produit très simple et très rustique. Alors, il n'est pas facile à fabriquer parce qu'il faut engager un certain nombre de moyens pour extraire le jus de canne, pour évaporer l'eau qui est contenue dans le jus de canne. Donc, c'est pas simple, mais c'est en même temps un produit qui est très agricole. Les gens faisaient ça dans les arrière-cours des exploitations cannières au feu de bois. Donc, c'est vraiment quelque chose de très rustique. Et effectivement, notre objectif à nous, dans notre société, à partir des cannes qu'on produit sur le domaine, c'est de proposer à notre clientèle des produits qui soient totalement purs, donc sans additifs, sans colorants, sans conservateurs, avec une méthode de transformation la plus transparente possible.
Alors on le rappelle, ce grand cru sucrier, tel que vous l'avez indiqué sur les petits étuis, c'est le galabé. Alors visuellement, et on est en pleine dégustation là, c'est une espèce de brique, c'est cireux, ça ressemble à une pâte un petit peu compacte. Alors on est en pleine dégustation,
c'est très,
Lise,
très bon.
Jacob et Jocelyne. C'est assez exceptionnel parce qu'il y a un truc qui se dégage de cette pâte, c'est on oscille entre les notes de café, de réglisse, enfin c'est de vanille.
Et puis ça reste en bouche assez longtemps.
C'est extraordinaire. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut découvrir qu'on ne pourrait pas avoir avec un sucre dont on disposerait dans nos placards?
Alors, c'est à moi que s'adresse la question.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez la reformuler? Je vous ai mal entendu.
Qu'est-ce qu'on goûte quand on goûte votre galabet?
Ah, qu'est-ce qu'on goûte? Bah, écoutez, c'est vrai que comme vous l'avez dit, on goûte beaucoup de choses. Je me rappelle d'une première dégustation à l'aveugle avec Philippe Conticini qui s'est déroulée il y a quelques années. Et Philippe Conticini décrivait le produit comme étant un produit composé. Donc, effectivement, il sentait de la vanille, du café, des notes de fruits type pruneau séché, réglisse.
Oui.
Et en fait, la particularité du galabet, comme l'a dit également votre autre invité, c'est que c'est un produit qui est très persistant, qui a une durée, une longueur en bouche qui est très intéressante. Et par conséquent, entre le moment où on le met dans la bouche et le moment où on laisse passer un petit peu de temps, pardon, 5, 10, 15 secondes, on a effectivement un petit voyage parce qu'on sent plusieurs choses, le goût se développe et il y a une sorte d'augmentation de l'intensité du goût en bouche qui fait la particularité du galabet.
C'est assez
avec
exceptionnel.
Aussi sa texture.
Oui, Jacob, Jocelyne, réaction par rapport à ce que vous goûtez là, c'est quand même un shoot de goût. Hein.
Ben oui, depuis le départ, là, j'ai goûté ça fait déjà un moment hein, et j'entends parler au fur et à mesure, je sens des goûts. En plus des goûts que je retrouve de mon enfance.
C'est dingue. Hein.
Et ça me rappelle beaucoup en fait le jus de canne qu'on boit régulièrement chez nous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas véritablement garder longtemps.
Non,
alors, on le vend en
dans
gobelet,
la rue,
mais ça n'a rien à voir.
Tout de suite.
Mais voilà, c'est ça.
Faut le boire tout de suite.
Donc ça m'a rappelé ça. Mais effectivement, l'avoir comme ça, c'est un grand plaisir, en tout cas.
Voilà, le galabet, c'est donc un produit désormais disponible en France. Bon, ce n'est pas dans la grande distribution qu'on va le trouver, mais on va peut-être donner un site internet.
Oui, le site internet, c'est www.paillettesrivière, donc ça s'écrit comme les patronymes, paillettesrivière.fr.
Voilà, allez-y, découvrez cette petite pépite de nos dom-tom.
Merci beaucoup Alexis Rivière, merci de nous avoir aussi envoyé un échantillon de ce galabet. Merci Sophie Mousse de nous avoir donné faim comme chaque jour. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de trois nouvelles destinations grâce à notre guide Sophie Massieu. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec nos invités Jocelyne Berroire et Jacob Desvarieux du groupe Cassav. Alors vous voyagez beaucoup, notamment avec la tournée, mais est-ce que vous avez du temps pour faire un peu de tourisme ou pas du tout, ou c'est à chaque fois minuté?
Elle oui, moi non.
Ah bon?
C'est-à-dire qu'eux préfèrent aller dormir.
Ah c'est ça, c'est un
moi,
choix.
J'aime... Bah, oui. D'ailleurs, ils voyagent souvent en train alors que moi je prends le bus. Avec les autres, parce que ça me permet de voir les paysages, et puis on s'arrête de temps en temps, donc je fais quelques photos, etc. Voilà.
Ça, c'est en France.
Mais et quand on va dans les pays étrangers, au lieu d'aller faire la sieste l'après-midi, quelquefois, je vais faire un tour dans les villes pour voir un petit peu, rencontrer les gens. Mais j'essaie d'avoir une place dans les bus qui nous amènent d'un point à un autre, soit devant, soit sur les côtés, afin de faire du drive-shooting pour ramener des images, voir un petit peu mieux le pays qu'on a traversé, parce qu'on a rarement l'occasion de faire. On ne nous paye pas de vacances. Hein.
Ben oui, c'est ça.
On va travailler.
Il y a des lieux comme ça que vous avez découvert où vous avez dit « Oh, ce pays est formidable, il faut que je revienne ».
Oui.
Mm-hmm. Ça, par exemple.
Ah, je m'attendais à cette question. Là, il y a plein d'endroits.
Ah oui, c'est ça.
Allez, en top 3.
L'île des Pins, en Nouvelle-Calédonie, par exemple.
L'Afrique du Sud. Moi, j'aimerais bien aller un peu plus en Asie, rester un peu plus longtemps au Japon. Je crois que cette fois-là, je vais rester un jour de plus que vous au Japon.
C'est magnifique. Voilà, c'est déconcertant tout le temps.
Ah oui, effectivement, c'est très dépaysant. Quoi. Quand on arrive là-bas, on sait qu'on n'est pas dans les pays qu'on connaît. Quoi.
Ça, c'est vrai.
Oui, comme en Amérique du Sud, par exemple. En Amérique du Sud, on avait vraiment l'impression de changer d'espace.
Perte de repère.
Complètement, parce qu'on a l'impression qu'ils vivent, c'est l'Amérique du Sud et l'Europe n'existe quasiment pas quoi. Voilà.
Pour eux, c'est autre
chose.
Et
ça, c'est bien.
Oui.
Et ça, c'est bien parce qu'on est complètement dépaysé, c'est autre chose. On apprend à découvrir d'autres personnes, notre façon de penser, de swinguer, etc. Voilà.
Et on peut être dépaysé dans son propre pays. On s'en rend compte tous les jours avec Sophie Massieu parce que vous nous proposez de découvrir trois lieux sur une même thématique. Alors, on prend de la hauteur aujourd'hui avec les trois lieux que vous nous proposez.
Et oui, parce que je vous emmène aujourd'hui dans des lieux qui sont devenus des havres de paix après un passé nettement plus belliqueux. Je vais vous parler des forts Vauban, mais pas seulement. Et puis, ils ont une autre particularité, c'est celle d'être entretenus par des particuliers. Et bien sûr, ils sont ouverts au public, sinon je ne vous en parlerai
évidemment
pas.
Et le premier d'entre eux, comme par hasard, se trouve à Saint-Malo. Vous avez tenu une journée.
C'est un pur hasard. On l'appelle...
Oui, je vous
taquine.
Ouais. Oui, non, c'est le hasard absolu. Ouais. On l'appelle le petit B parce qu'il est juste à côté de... De quoi?
Du grand B.
Ah, oh, c'est oh là formidable. Là. Et vous savez ce que c'est le grand B ou pas?
C'est pas l'endroit où a été enterré Chateaubriand?
Eh bien sûr que si, bravo, vous avez une culture énorme.
J'ai surtout une énorme anti-sèche.
C'est honnête de l'avouer. Le petit B, lui, en tout cas, c'est donc un fort Vauban. Il se situe à 700 mètres des remparts de ce que les locaux appellent intramuros, donc de la vieille ville. Il a été construit, comme les autres forts Vauban, au XVIIe siècle. Il avait pour mission de protéger la cité corsaire des méchants Anglais. Il pouvait, en cas de siège, accueillir jusqu'à 160 hommes. Il était doté de pas moins de 19 canons, quand je vous disais que c'était un passé belliqueux, et de deux mortiers. Mais aujourd'hui, c'est un lieu vraiment idéal pour se ressourcer. Depuis qu'en 2000, il a été réouvert au public par le particulier qui, à ses frais, le restaure et l'entretient. C'est un monument qui est classé monument historique depuis 1921. Et bon, comme beaucoup d'éléments du patrimoine, il doit aujourd'hui sa survie à la volonté d'un particulier. Et donc, en le visitant, vous soutenez aussi le projet de restauration et vous vous offrez un magnifique panorama sur la baie qui va du Cap Fréhel à l'ouest à la pointe de la Varde à l'est. Ça vous coûte 3 ou 5 euros selon que vous bénéficiez du tarif plein ou du tarif réduit. La visite est gratuite pour les enfants qui sont âgés de moins de 7 ans. Alors, pour vous y rendre, il y a deux solutions. Soit vous bénéficiez d'un assez fort coefficient de marée et alors vous pouvez y aller à pied. À marée basse, c'est génial. Moi, vraiment, je recommande absolument de crapahuter dans le sable et les rochers. C'est hyper facile. Hein. Il n'y a vraiment pas d'enjeu,
oui,
ni de
danger,
ni rien de tout ça. Oui, vraiment, tout le monde peut le faire. Sinon, il y a aussi des navettes qui sont mises en place pour atteindre ce fort et elles sont gratuites.
Bon, quitte Saint-Malo, on va maintenant dans le sud.
Absolument. Je ne m'y attendais pas.
Moi non plus. C'est Loïc, notre réalisateur.
Merci Loïc.
Qui agrémente cette chronique.
Les fortifications ne sont pas seulement effectivement présentes sur la côte atlantique. On en trouve aussi au bord de la Méditerranée. Et là encore, parfois, ce sont des particuliers qu'ils entretiennent et qui les ouvrent au public, à l'image du fort Saint-Elme, qui est à Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan. Alors lui, ce n'est pas un fort Vauban. Il a été construit avant par l'empereur Charles Quint. Donc c'est au XVIe siècle, vous savez, le grand ennemi de François
Ier. Oui, ça me dit quelque chose.
Ça vous dit quelque chose.
Oui.
1515, tout ça. ce fort, on peut le visiter et on peut aussi organiser des anniversaires, par exemple pour les enfants, hein, pour les petites filles, pourquoi pas, qui voudraient jouer au chevalier ou aux chevalières. C'est une façon, là encore, de soutenir le maître des lieux qui le restaure depuis 2004, depuis donc la mort de son père. Mais ce fort, en fait, il est entré dans sa famille, la famille Ducatte, en 1927, quand le grand-oncle de l'actuel propriétaire l'a acheté. Aujourd'hui, sa famille y vit, y accueille les visiteurs. Pourquoi pas vous, si vous avez envie de bénéficier cette fois-ci à 160 mètres de hauteur, c'est pas rien, d'un beau panorama sur la chaîne des Pyrénées et sur la Méditerranée donc. Les visites guidées, elles ne sont pas très chères. Elles coûtent 8 euros pour les adultes. À moins que, tel que je vous connais, Lise, vous allez vouloir y ajouter une petite dégustation de bagnoles.
Bah, pourquoi pas.
Ce vin apéritif
avec
local.
Avec mon ami Modération.
Mais voilà, toujours. Et là, ça vous coûtera 15 euros si vous voulez boire même avec Modération.
Oui, c'est une bonne idée. Et direction une île pour finir.
Ah oui, alors retour à de l'architecture Vauban avec la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer, la bien nommée, forcément. Eh oui, alors celle-là, cette fois-ci, je ne me suis pas faite surprendre.
Vous l'attendiez.
Un peu plus. Cette fois, on est dans le Morbihan, sur la côte sud de la Bretagne, ou plutôt au large, d'ailleurs, devrais-je dire. Cet édifice se trouve au Palais, la principale ville de l'île. Et il a été donc fondé au Moyen-Âge, et Vauban l'a modifié, remanié, etc. Alors, le bâtiment occupe pas moins de 10 hectares, c'est vraiment très grand. Eh oui. Il a fait l'objet de plusieurs décennies de restauration. Lui aussi, bien sûr, il est ouvert au public. Alors, c'est un peu la version luxe, parce qu'en fait, il appartient à un groupe hôtelier. On peut donc y manger, y dormir, à condition de pouvoir se lever.
Oui.
Il faut par exemple compter 19 euros pour le petit déjeuner, donc c'est
oui,
pas rien.
Ah oui, j'espère qu'il est copieux.
je ne l'ai pas encore testé. Le site internet, en tout cas, de la cité Vauban vous permet de choisir votre chambre avec, au moyen d'une visite virtuelle. Bref, moi je dis qu'on peut se laisser tenter, peut-être pour une occasion importante de votre vie. Et puis, si vous le faites, venez partager vos impressions avec nous, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1.
Exactement. Et Sophie Massieu, l'application du jour, fait un petit clin d'œil à votre journal de la culture.
Ah bah oui, évidemment, je n'ai pas résisté, la boucle est bouclée forcément, et je vous invite, que vous soyez ou non dans cette région, à télécharger Aromanche 1944. C'est une application qui permet de découvrir, grâce à la réalité augmentée, ce port et Juno Beach, bref, de revivre le jour J, le jour du débarquement, en visualisant les lieux, la disposition des forces. Je salue un petit détail qui n'en est pas un, outre sa gratuité, une version a été développée en langue des signes française pour les personnes sourdes. Donc, c'est tellement rare que ça mérite d'être signalé. À bon entendeur, elle était facile, mais je me suis laissée tenter.
Oui, bah, vous avez raison, il faut se laisser tenter. Vous retrouvez en tout cas toutes les références des contenus qu'on partage sur le site Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous nous interpellez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Dans quelques minutes, Sophie Mounz va nous parler de tomates et encore de tomates. Ce sera comme ça toute la semaine. Avant ça, on écoute Cassa avec Mauvais Joue sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
C'était Mauvais Joue du groupe Cassav qui nous accompagne depuis ce matin, 9h sur Europe 1. Enfin, Jacob Desvarieux et Jocelyne Béroir. On se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Nous entamons la dernière partie de ce Club de l'été avec nos invités Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux du groupe Cassa. Vous avez compris que dans ce studio, on aime beaucoup manger.
Surtout vous, Lise, non ? Oui,
c'est vrai.
Ils ont pris 4000 calories, là, oui, en une heure.
Alors, vous aimez manger, mais est-ce que vous aimez aussi cuisiner ? Est-ce qu'il y a un plat que vous faites tout le temps, un inratable ? Jocelyne, c'est quoi votre spécialité ?
Je fais ce qu'on appelle chez nous le riz arrangé.
Alors, on
l'arrange
pas.
C'est-à-dire qu'à la base, ça va être du riz et on ajoute des légumes et toutes sortes de choses. Donc, je mélange. C'est un peu à la manière du riz cantonais, mais à la Jocelyne. C'est-à-dire que je mélange tout ce que
c'est une cuisine des restes, en fait.
Différents goûts et différents. Voilà. Et puis des épices, évidemment. Et en général, mes amis aiment beaucoup.
Ils reviennent.
Ils en redemandent.
Bon, c'est bon signe. Jacob, vous cuisinez ?
Pas tout à fait. Disons que moi, je goûte éventuellement.
C'est le meilleur des jobs, ça, goûteur.
Bah oui. Parce que la personne qui cuisine, en général, après, elle a plus faim, quoi.
C'est ça. Mais c'est vrai, en plus, quand on a cuisiné, on a presque plus faim. Sophie
On continue notre saga de la tomate.
Oui, c'est ça. Hein,
vous la cuisinez, la tomate, dans cette cuisine îles, bien entendu. Aujourd'hui, on va faire une tatin. La tatin, je vous rappelle le concept. C'est la tarte, a priori, aux pommes, cuite à l'envers et puis servie
à l'endroit.
Voilà, vous avez tout compris. Sauf que là, les pommes vont céder la place à nos belles tomates de saison. Vous savez, Jocelyne, ces tomates qui débordent de jus et de sucre. Vous savez, des trucs qui ont du goût. Alors, on rappelle que pour la tarte tatin, il vous faut un fond de pâte. Alors, le mieux est de la faire, de le faire vous-même. C'est le concept de la pâte brisée. Hein. Donc, je rappelle, farine, du beurre à température ambiante, du jaune d'œuf, un peu d'eau ou de lait. Et du sel, vous pétrissez tout ça pour les ingrédients exacts et les quantités. On renvoie nos auditeurs sur le site Europe 1.
Oui, d'accord, je donnerai des détails précis. Vous posterez le détail, hein,
voilà,
mais donc, mais ça paraît simple comme ça et moi, je n'ai jamais réussi. Alors,
oui,
Sophie, il faut vous m'expliquer.
Ah bah c'est tout simple. Je vous mets la recette sur le site.
Non,
sinon,
on la fera ensemble.
Vous pouvez acheter un fond de tarte, soit feuilleté, soit brisé, en hypermarché, il n'y a pas de souci. C'est du prêt à cuire. Prenez une poêle.
Oui.
Vous mettez dans cette poêle du sucre et un petit peu de vinaigre balsamique. L'idée étant d'en faire un caramel.
D'accord.
Dans ce caramel, vous allez mettre, moi ce que j'utilise, ce sont les petites tomates cerises que je coupe en deux. Et je vais bien les faire caraméliser. Vous voyez, le sucre de la tomate va se mélanger au sucre du caramel. C'est un truc déjà, vous savez, un peu addictif.
Oui,
vous picorez dans la casserole.
Alors comment on fait pour ne pas le brûler? Parce que moi je suis nulle en caramel, à chaque fois je laisse trop longtemps.
Disons que, voilà. Alors je vais vous dire, moi je ne suis pas une pâtissière. Donc voilà, moi mon caramel, je le fais pas dans la discipline pâtissière. Moi je mets un petit peu comme je le sens, le sucre, le vinaigre balsamique, les tomates, je mélange tout et ça prend. Voilà.
Okay.
Le tout c'est que si vous voyez que ça commence à cramer, comme on dit, vous baissez un petit peu le feu. Il y a pas de souci, mais ça devrait normalement le faire. Rajoutez un petit peu d'herbe type thym, il y a pas de souci. Vous allez prendre un moule à tarte, jusque-là tout simple.
Jusque-là on a.
Vous allez mettre vos tomates dans le fond. On est bien d'accord que la partie bombée doit se retrouver dans le fond.
D'accord.
Parce qu'après, on va la retourner.
Oui, on a
il faut que ce soit joli.
Ouais.
Vous mettez par-dessus la fameuse pâte, hein, soit que vous avez acheté, soit faite maison. Vous enfournez. Vous faites juste quelques petites entailles avec une fourchette. Vous mettez au four, je dirais, 20-25 minutes, 180 degrés.
Mm-hmm.
Vous sortez la tarte. Vous la laissez refroidir. Vous la retournez. Et vous avez la tatin.
Oh là
tomate.
Là, c'est magnifique. Il faut la laisser refroidir longtemps, il faut la manger tiède.
Oui, attendez que ça refroidisse un petit peu, sinon vous risquez de l'abîmer lors du retournement.
Du retournement.
Mais voilà, mais c'est tout simple, c'est très très joli, c'est sympa, c'est plein de saison, c'est plein de goût, c'est tout ce qu'on aime. Puisqu'on est toujours dans le registre des bonnes tomates, un petit rendez-vous peut-être?
Oui.
Alors ça se passe au château de la Bourdaisière. C'est un magnifique édifice du côté des châteaux de la Loire. On est à Montlouis-sur-Loire et au cœur de ce domaine sévit Louis-Albert Debreuil. C'est le prince jardinier. Il y a développé un conservatoire des tomates, près de 700 variétés anciennes, celles qui ont du goût, cornues des Andes, rouges d'Irak, dix doigts de Naples, Erika d'Australie. C'est un vivier vraiment extraordinaire de biodiversité. Il ouvre tout prochainement les portes de ce conservatoire. Ce sera les 7 et 8 septembre prochains. On est à Montlouis-sur-Loire. C'est un château exceptionnel. On peut y loger aussi, hein. Donc vous y allez.
C'est bien.
Vous tapez sur les sur le site Château de la Bourdaisière, vous trouverez tout cela. C'est exceptionnel. Et le gaillard peut vous parler pendant 4 heures de ses tomates. Et même plus si affinité.
Ah bon?
Ah oui, non, mais c'est un vrai passionné.
Ah d'accord, mais moi j'ai très envie d'y aller.
Et chaque année, vous avez tous les jardiniers français qui se donnent rendez-vous sur place. C'est exceptionnel, vraiment.
Ah ben merci beaucoup Sophie. On va tester cette recette. Je vois que Jocelyne sort son stylo pour prendre des notes.
C'est à Montlouis-sur-Loire.
Non mais oui. C'est quand, le 7 septembre?
Le 7 et 8 septembre.
Oui, on sera en concert, je crois.
Le 7, vous êtes à Châlons-en-Champagne.
Voilà,
Jacob, j'ai vos dates sous les yeux. En tout cas, si vous avez des questions pour Sophie Mounz, vous n'hésitez pas à l'y répondre. Elle s'y fera un plaisir avec le hashtag Europe 1. Jocelyne Béroir et Jacob Desvarieux, merci beaucoup d'avoir passé ces 2 heures avec nous. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes en tournée partout en France pour fêter vos 40 ans de carrière. Il y a énormément de dates, donc du coup, je vais vous rafraîchir la mémoire, Jacob Desvarieux, pour vous dire où est-ce que vous allez être. Alors, ce vendredi, vous êtes en Belgique. Alors, je tente même pas, Sophie Mounz, la prononciation. Il y a un festival qui s'appelle. Antiensefesten,
laissez-moi lire votre truc.
Voilà, donc, après, ils seront à Saint-Malo, Sophie Massieu.
Oui,
voilà,
je l'ai noté le
11 août.
Oui.
Vous allez ensuite faire un tour du côté de la Guyane le 17 et le 18. Vous serez à Trinidad le 24. Ouais. À Châlons-en-Champagne, donc le 7 septembre. Le dimanche 15, à la Courneuve pour la fête de l'Huma, évidemment. Du 20 au 21 septembre, vous serez à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous allez ensuite au Mozambique, au Vanuatu, en Nouvelle-Calédonie. Oh, et ensuite, vous revenez nous voir le samedi 26 octobre à Lille, au Zénith. Moi, j'y serai. Le jeudi 7 à Nantes, au Zénith aussi. Le vendredi 8 à Rouen. Le samedi 9 à Bordeaux, à l'Arkea Arena. Le dimanche 10 à Montpellier. Encore un Zénith. Voilà, je...
Vous pouvez vous rappeler le nom de la ville en Belgique?
Mais en fait, c'est un festival. Bon, Sophie, j'ai même pas le nom. Hoogstraten.
Hoogstraten.
Je suis pas hyper douée. Voilà, mes
connaissances. S flamand.
Voilà, mes connaissances,
c'est le petit morceau de sucre français qui prononce à la belge.
Mais c'est un festival de musique, Sophie Moon. Ça a l'air très sympa. Moi, voilà, je ne connais pas. Il y a également un double album qui est disponible qui s'intitule Cassaf 40 ans, tout simplement. Un double album avec 35 titres, voilà, que Jocelyne Béroir a choisi. Sophie Massieu, Sophie Moon, nous, on se retrouve demain, hein, même
avec
endroit,
grand,
même heure dans ce
plaisir.
Studio.
Par les risotto.
Oui, notre invité sera l'écrivain Daniel Picouli. Nous irons nous promener en Sologne.
Absolument.
Grâce à lui. Et je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.